est blanche.
40 nuances de Sista. Les Sistas d'une ex-40 comme vous ne les avez jamais entendues. Animé par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sistas du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Biotech, deep tech, medtech, IA, physique théorique, ce n'est qu'une partie du programme du jour que je vous propose dans ce nouvel épisode de 40 nuances de Sista. Nous allons plonger ensemble dans l'univers des médicaments de demain. En mai dernier, Nicolas Banchet, cofondateur et CEO de Ziplug, nous souffle son nom. À mon sens, et sans avoir même débuté l'interview, elle fait partie de ces entrepreneurs plutôt discrètes, mais dont on devrait entendre parler bien plus souvent. Mon invité du jour est Emmanuelle Roland-Marciano, cofondatrice et COO d'Akemia, une plateforme de recherche de médicaments en accéléré qui utilise l'intelligence artificielle. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Alors Emmanuelle, pardonne-moi si j'ai un peu trop vulgarisé l'activité d'Akemia, mais tu vas vite nous en dire plus. Vous venez de lever en janvier 2024 30 millions d'euros, moins de deux mois après avoir signé un partenariat de 140 millions de dollars avec le géant Sanofi. Et alors que vous aviez déjà levé en 2022 30 millions d'euros cette fois-ci, et que vous aviez fait un seed de 1 million en 2019 au moment de la création d'Akemia. Est-ce qu'on peut dire, Emmanuel, qu'avec ton équipe, vous êtes celles et ceux qui vont faire rayonner la science française ?
C'est une jolie façon de le dire, effectivement, d'autant que Akemia, historiquement, en fait, on est une spin-off de l'École normale supérieure et de Paris Sciences Lettres et de plusieurs institutions académiques comme le CNRS. Donc, on part vraiment de la science académique française. Mon associé Maximilien Levesque, qui est CEO de la société, dirigeait en fait un groupe de recherche à Normalsup en physique théorique. Jusqu'en 2019, où justement il a décidé de sortir de l'académique pour créer Akemia, qu'on a cofondé ensemble. Donc c'est vraiment faire rayonner la science française pour un impact passionnant qui est comment trouver et accélérer la recherche de médicaments.
C'est rare, non, un ingénieur qui sort de son labo pour créer une boîte ?
Oui, tout à fait. On voit plus souvent des chercheurs qui spin-off leur technologie, mais qui, eux, restent au labo et continuent de faire leurs recherches tout en conseillant les startups. Là, en l'occurrence, c'est un modèle de chercheur-entrepreneur où vraiment, il est sorti du labo. Et puis, c'est pas si simple parce que quand on est fonctionnaire, sortir du fonctionnariat, c'est un vrai leap of faith, pardon pour l'anglicisme. Donc oui, j'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré en 2019.
Alors, je te propose, plutôt que ma vulgarisation rapide d'Akemia, de passer au pitch. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Akemia, Emmanuel ?
Oui, Akemia, donc on est une plateforme de recherche de médicaments. Donc, notre métier, c'est vraiment d'inventer des candidats médicaments, des molécules qui, un jour, pourront soigner des patients. Et on fait ça de manière complètement unique, avec une technologie qui est issue de plus de 12 ans de recherche académique, qui combine à la fois une IA générative et de la physique inspirée du quantique. Et donc, on développe notre propre pipeline de projets de recherche de médicaments contre le cancer aujourd'hui, mais l'idée c'est de se développer sur d'autres indications thérapeutiques en cible. Donc on a nos propres projets et on a aussi quelques collaborations avec de grands laboratoires pharmaceutiques comme Sanofi que tu as évoqué juste avant.
Alors, tu as dit beaucoup de choses là en très peu de temps. Je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Tu dis aujourd'hui, ce sont des médicaments principalement en vue de guérir certains cancers.
Tout à fait.
Quel type de cancer ?
Pour l'instant, tout type de cancer, que ce soit des cancers, ce qu'on appelle solides, entre guillemets, avec des tumeurs solides comme dans le poumon, qui est un cancer très agressif, ou le cancer du sein. Et puis on peut penser aussi à des cancers liquides comme la leucémie, qui continuent à poser problème pour certaines catégories de patients.
Et ces recherches, ou c'est se dire, tiens, on va plutôt aller sur tel type de cancer ou tel type de maladie, c'est drivé comment aujourd'hui ?
C'est drivé par deux choses. C'est drivé par... Un, il y a certaines maladies qu'on a aujourd'hui plus ou moins de facilité à soigner. Donc, il y a des maladies où on sait que quand le diagnostic est fait, on a un taux de survie très faible. Donc, c'est typiquement plutôt ce genre de maladies vers lesquelles on va aller, évidemment. Et ensuite, il y a un deuxième aspect qui est, est-ce que finalement, ça fait du sens que Akemia s'attaque à cette maladie? Parce qu'il y a déjà de grands laboratoires pharmaceutiques comme Novartis, Roche, Sanofi, etc. qui travaillent dessus. Pourquoi Akemia a une chance d'amener quelque chose sur ce sujet? Et c'est là que notre technologie entre en jeu.
Et alors, qu'est-ce qui, dans la technologie, fait qu'on se dit « Ok, on y va là ».
En fait, nous, notre métier, on vient de la physique initialement, de comment les molécules interagissent entre elles. Et donc, ce qui est important pour nous chez Akemia, c'est que, en fait, la façon dont fonctionne une maladie, c'est que il y a ce qui s'appelle une cible thérapeutique. Donc, c'est une proline qui, à un moment donné, fait quelque chose qu'elle n'est pas censée faire dans notre corps. C'est ça qui produit une maladie. Et nous, notre métier, c'est d'inventer une molécule qui va venir se coller à cette cible et bloquer la maladie. Donc vraiment, notre métier, c'est de designer, on peut voir ça vraiment comme une recette, etc., de designer la molécule atome par atome qui va venir se coller à la cible et bloquer la maladie. Et donc, nous, les enjeux, les maladies qu'on sait le mieux soigner, c'est celles où on comprend le mieux ce mécanisme-là de « il y a une cible et nous, on invente le bon médicament qui va avec ».
Donc, c'est principalement de la molécule de synthèse?
Tout à fait. C'est des molécules de synthèse chimique qui sont la plupart des médicaments qui aujourd'hui sont sur le marché, en l'occurrence. On peut penser à du Doliprane que les Français connaissent très bien, mais c'est le cas de plein d'autres
médicaments. C'est celui qui est le plus consommé en France?
Alors, je ne saurais pas dire là comme ça, mais c'est vrai qu'on a y a une histoire en France avec le Doliprane qui est assez marrante, parce que dans plein d'autres pays, en fait, ils utilisent plutôt de l'aspirine ou ce genre de choses, ou de l'efferalgan. Bah, nous, on utilise du Doliprane.
Et comment vous procédez pour tester les médicaments? Parce que on a en tête quand même un temps très long aussi entre je découvre cette molécule ou je me dis tiens, cette molécule qu'on vient de créer en synthèse, comme tu viens de nous l'expliquer, pourrait fonctionner. J'imagine qu'il y a des tests et puis il y a la commercialisation. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce temps?
Alors effectivement, la recherche pharmaceutique, c'est des temps très longs. Typiquement, on pense à des timelines de l'ordre de 12-15 ans de l'idée jusqu'au médicament sur le marché et puis plus de 2 milliards de dollars dépensés. Et en réalité, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que la R&D pharma, c'est une suite de proxys. L'objectif, c'est de simuler au plus près possible, finalement, le patient qui est chez lui, qui est malade. Donc pour ça, il y a d'abord les essais cliniques. On choisit des patients de manière statistique pour pouvoir vérifier que le médicament est à la fois safe et efficace, donc on ne va pas rendre quelqu'un plus malade et en même temps on va essayer de le soigner tant qu'à faire. Et c'est ça qui prend le plus de temps et d'argent, c'est vraiment le test sur les patients. Et avant ça, il y a d'autres proxys qui ont été développés, d'abord les proxys sur des animaux, des modèles animaux où on mimique des maladies pour voir si on les guérit ou pas avant de passer dans l'humain. Ensuite, il y a un autre proxy encore avant ça qui est testé dans le bécher, tout simplement. On met des protéines, on mélange avec un futur médicament, puis on voit si ça agit ou pas sur la protéine. Et il y a encore un autre proxy avant ça qui est l'ordinateur. Et donc, nous, notre métier chez Akemia, c'est justement de faire le plus de calculs possible dans l'ordinateur pour aller identifier les molécules les plus prometteuses, pour qu'ensuite, une fois qu'on les synthétise et qu'on les teste, que ce soit dans le bécher, dans l'animal et ensuite dans l'homme, elles soient le plus efficaces possible et qu'on gagne du temps et qu'on aille sur les molécules les plus pertinentes.
Et c'est en ça, en fait, que votre techno, elle est ultra innovante, c'est que vous créez en accéléré avec cet ordinateur, mais dans cet ordinateur, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment de l'IA, etc. Vous créez en accéléré ces molécules.
En fait, c'est exactement. Notre métier, c'est vraiment de révolutionner la façon dont les choses sont faites dans l'ordinateur pour identifier les meilleures molécules pour la suite. Et comment on fait ça? Donc, on utilise une IA générative qui va inventer des molécules. Et on met en face de ça des algorithmes basés sur de la physique qui savent prédire, en fait, l'efficacité potentielle de cette molécule. Et on sait le prédire aussi précisément que le leader du marché, qui sont américains, etc. Mais on sait le faire 10 000 fois plus vite. Le calcul est 10 000 fois plus rapide. Ce qui permet d'avoir une boucle d'itération avec l'IA générative beaucoup plus efficace. Donc, elle peut faire beaucoup plus de tests et on peut être beaucoup plus innovant, aller chercher beaucoup plus loin des molécules que d'autres n'auraient pas imaginées pour finalement aboutir, au bout de quelques millions d'itérations de l'ordinateur, à quelques dizaines de molécules intéressantes. Sur un projet, on va plutôt en tester quelques centaines probablement, mais il faut comparer ça par rapport à l'industrie pharma où c'est plutôt quelques milliers de molécules qui sont en général synthétisées et testées. Donc, on fait accélérer la partie recherche de médicaments puisqu'on a moins de molécules testées, synthétisées et testées. Et surtout, on est plus innovant parce qu'on va chercher plus loin dans l'ordinateur les meilleures molécules pour guérir une maladie.
Il y en a d'autres qui font comme vous aujourd'hui?
Bien sûr. La chance sur notre marché, c'est que Il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a plein de maladies à guérir. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. On est content quand les concurrents, entre guillemets, ont des succès. Après, les concurrents sont aussi beaucoup US et UK. Donc il y a aussi ce petit côté French touch. On est content de pouvoir amener quelque chose justement avec la science académique incroyable qui est en France, dont on parlait plus tôt. Et après, nous, bah, on a notre touch unique chez Akemia, qui est ce calcul qui est 10 000 fois plus rapide et qui vient quand même de 15 ans de recherche académique par le passé et qu'on est les seuls à avoir.
Je vous pose une première petite question surprise.
Vous avez un message.
Comment vous, Akemia, vous arrivez à faire la part des choses entre les effets positifs, toutes les vertus de l'intelligence artificielle et tout ce qu'on entend par ailleurs qui commence à être décrié, effectivement, avec des utilisations qui peuvent être assez néfastes. Voilà, ça va être des sujets, je pense, importants pour le développement de la société.
C'est donc une question de Nicolas, ton bro, dans cet épisode.
Alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, dans notre monde chez Akemia, c'est la partie recherche des molécules et non pas la partie de test sur les patients. Et finalement, c'est de la discovery. C'est très innovant. Il n'y a pas vraiment de régulation très forte. On invente une molécule, on la teste dans le bécher. Il n'y a personne qui vient nous embêter pour savoir si on a testé une bonne ou une mauvaise molécule.
Le bécher étant le petit vase.
Pardon, oui, c'est de la verrerie. Voilà. C'est un petit
ça
pot.
Me rappelle mes cours de physique.
Tout à fait. C'est un petit pot, on va dire ça comme ça. Dans lequel on met des protéines, des molécules, on les mélange et on voit ce qui se passe. Voilà, tout à fait. Et donc, finalement, il y a assez peu d'enjeux de régulation, ça, elles viennent après, quand on commence à tester sur les animaux, sur les humains. Là, évidemment, c'est beaucoup plus contrôlé, et heureusement. Donc, nous, on a moins cet enjeu-là. Et la chose qu'on amène avec Akemia, c'est que souvent, les boîtes qui font purement de l'intelligence artificielle sont obligées de s'entraîner sur des données expérimentales. Donc, elles sont biaisées par les anciennes données expérimentales qu'on a inventées. Et donc, elles ont du mal à sortir des clous pour aller trouver des choses pour guérir des maladies incurables aujourd'hui. Et comme nous, on guide notre IA générative avec de la physique, des calculs physiques dans l'ordinateur, en fait, on s'en moque de ce qui a été déjà inventé par le passé. Le calcul physique, il dit juste ça colle ou ça colle pas. Et donc, ça nous permet de sortir des sentiers battus. Donc, on n'a pas ce côté biais de l'intelligence artificielle dont beaucoup de gens parlent, etc., qui peut être un problème de biais de genre ou de plein de choses qu'on peut imaginer. Nous, on n'a même pas ce biais chimique, entre guillemets, parce que ce qui dit que l'IA a raison ou pas, c'est de la physique. C'est pas les données passées.
Donc, en fait, soit tu te retrouves pas dans les polémiques qu'il peut y avoir, parce que donc, ce que t'expliques très bien, c'est que c'est pas le passé qui nourrit votre IA, mais tous ces calculs qui sont mathématiques et physiques, et ça marche ou ça marche pas.
Exactement. Le seul biais qu'on a, entre guillemets, si nos calculs physiques modélisent les atomes d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est vraiment de la science. Et personne n'en voudra à un carbone d'être plus favorisé qu'à un azote. C'est pas le sujet.
Et selon toi, justement, les forces et les faiblesses de l'IA dans la medtech aujourd'hui?
C'est énorme. C'est énorme.
On pourrait faire un épisode de 3 heures sur le sujet.
Complètement. Je pense qu'il y a... Bah, déjà, la médecine, de plus en plus, devient un métier de données. C'est-à-dire qu'on récupère de plus en plus les informations, les stocks, etc. Et donc, en fait, si on était capable d'utiliser mieux toutes les données patients dans le monde, se rendre compte toutes les maladies qu'ils ont eues, comment ils ont été traités, comment ils ont réagi, quel est leur génome, qu'est-ce qui fait que finalement la maladie s'est développée ou pas, etc. Ben, c'est des axes considérables de développement de la médecine pour demain. Donc ça, c'est vrai quand on regarde les patients, c'est vrai aussi quand on est plus dans les phases amont de la R&D pharma, quand c'est vraiment purement des données biologiques dans des tests, dans des peaux, comme on disait, ou dans des animaux. Ben là, pareil, c'est un des gros enjeux des pharma, c'est comment stocker au mieux leurs données pour en tirer des insights, pour accélérer la recherche des médicaments d'après. Donc il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire. Et puis après, quand on pense à GenAI, il y a aussi plein de choses, enfin tout bêtement, sur, par exemple, de la rédaction de protocoles d'essais cliniques. Ben, c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. Ben, en fait, en utilisant un assistant GenAI, on peut accélérer aussi ce genre de tâches, pas forcément les plus drôles, et qui permettent justement aux humains de se concentrer sur les tâches à plus haute valeur ajoutée.
On parle beaucoup aussi de médecine préventive ces derniers temps, donc c'est-à-dire d'anticiper le fait que potentiellement on pourrait développer telle ou telle maladie. Est-ce que c'est aussi un sujet sur lequel vous vous penchez, vous, Akemia, ou c'est que du curatif à date ?
À date, c'est que du curatif, mais on pourrait imaginer du préventif. Après, Akemia, nous, ce qu'on sait faire, c'est inventer de manière très efficace des molécules pour contrer des cibles thérapeutiques à l'origine de maladies. Donc, si un institut académique ou que sais-je est capable d'identifier une protéine dont on sait qu'elle est surexprimée chez quelqu'un qui n'est pas encore malade, mais qu'on sait qu'elle le sera un jour, après tout, on pourrait imaginer développer des traitements préventifs contre cette maladie en tapant sur cette protéine.
Alors, tu nous as parlé dans ton pitch, j'ai dit que tu avais parlé de plein de choses. Tu nous as parlé, et j'en ai parlé aussi en intro, de votre partenariat avec Sanofi. Comment on rencontre Sanofi et on fait un partenariat?
Alors, c'est d'abord une histoire de relations de confiance et de relations scientifiques avec Sanofi, mais c'est vrai avec d'autres également. Il se trouve qu'avec Sanofi, on a une assez longue histoire, puisqu'en fait, il y a des chercheurs des équipes de Sanofi en France qui font partie des premières personnes qu'on a rencontrées avec Maximilien quand Maximilien au début pensait à fonder Akemia pour tester si finalement ça faisait du sens. Parce que quand on développe une technologie dans un labo, quand on résout une équation mathématique, on se dit pas tout de suite « Ah oui, bah, pour la recherche de médicaments, c'est incroyable. » Et donc, bah, on va rencontrer des gens et les équipes scientifiques de Sanofi font partie des premières personnes à qui Maximilien, puis ensuite moi, avons parlé. Et puis ensuite, on a fait de premiers contrats plus petits, plus modestes, pour justement se tester, apprendre à travailler ensemble, voir si ça marchait. Et bah, la réflexion, c'est plutôt que oui, puisque du coup, après ces quelques années de travail ensemble, on a décidé conjointement de faire une collaboration qui passe à l'échelle. Donc, on adresse plus de projets ensemble.
Et votre première réussite avec Akemia?
Notre première réussite avec Akemia. Bah, pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant avec Sanofi, je pense qu'il y a eu un Eureka moment à un moment donné où pendant un projet qu'on avait avec eux, une molécule qu'on a designée un peu out of the blue et qui s'est retrouvée être efficace sur ce qu'on voulait faire. Et à la fois nous, comme l'équipe de l'autre côté Sanofi, étions hyper ravis du résultat. Donc ouais, ça pourrait être un moment sympa. Ouais.
Et ému, non? Aussi.
Oui, ému, oui, tout à fait. Alors après, c'est vraiment un point dans le temps et l'objectif, c'est de le répliquer. Et bon, je pense que c'est aussi le propre d'un entrepreneur, c'est de jamais être satisfait et de vouloir toujours avancer. Mais oui, on est content quand on voit qu'il y a des choses qui marchent et où on se dit, bah, ça vaut le coup de continuer.
Il y a des choses qui sont déjà commercialisées dans ce que vous avez fait?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle commercialisé. On n'a pas de médicament qu'on a inventé qui, aujourd'hui, a été testé dans les patients et approuvé sur le marché. Ça, ce n'est pas le cas parce que, comme je disais, les cycles de développement, c'est 12-15 ans.
Oui.
Akemia existe depuis 90.
Vous avez beau accélérer, mais...
On n'a pas encore eu le temps de faire ça. Par contre, notre travail est commercialisé au sens où bah, on fait des projets de collaboration où on est rémunéré, typiquement, avec Sanofi.
J'ai lu que vous rêviez en nouveau Moderna européen. C'est d'ailleurs notre partenaire La Tribune qui a parlé de vous comme ça lors de votre dernière levée. Au-delà de cette ambition que tu peux bien sûr commenter, quels sont les défis pour Akemia à court terme et moyen terme et long terme, parce que vous êtes aussi sur un temps long?
Le défi et à la fois l'objectif depuis le début d'Akemia, c'est d'être capable d'inventer des médicaments. Et c'est un double défi, ce que je viens de dire, parce que déjà, inventer un médicament, c'est héroïque. Il n'y a pas beaucoup de monde dans l'industrie pharmaceutique qui puisse dire « j'ai travaillé sur un médicament qui est aujourd'hui sur le marché ». Mais alors en plus, en inventer plusieurs, là, ça démultiplie le défi. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a nos premiers projets internes qu'on a développé, qui commence à montrer des signes d'efficacité dans l'animal. Et l'objectif, c'est bah justement d'aller, j'espère, dans les 2-3 prochaines années, d'avoir les premiers signes de safety et d'efficacité dans l'humain. Ça, ce serait incroyable. Ce serait un achievement incroyable.
Et pour le Moderna européen? Parce que j'ai bien vu que tu n'avais pas répondu à cette question.
Bah, je pense que... une des choses qu'on essaie de montrer avec Akemia, c'est que même en étant des petits Frenchies, on peut avoir à la fois une science, mais aussi surtout un impact au niveau mondial. Et on est ravis de voir que depuis 10 ans, allez, 5 ans, l'écosystème biotech, medtech français prend vraiment de l'ampleur, notamment en plus à l'âge où l'intelligence artificielle, la tech, etc., finit par se combiner avec les life science un peu plus classiques. Et la France a beaucoup de choses à dire en tech. Et donc, on espère faire partie de ce mouvement pour effectivement montrer que, bah, avec la science française, on peut aussi amener plein de choses.
Alors justement, je rebondis sur ce que j'ai dit en intro, j'ai parlé de medtech, j'ai parlé de biotech, j'ai vu aussi quand vous vous mettez dans la health tech, il y a forcément tech, ça on est sûr. Comment vous vous définissez, vous ?
Alors pour se rendre un peu fou, nous on est ce qu'on pourrait appeler une tech bio, donc c'est l'inverse de biotech.
Ouais.
Quand les gens parlent de biotech, ce que ça veut dire par là, c'est une entreprise qui développe un médicament, pour faire simple. Et tech bio, c'est de dire qu'on développe un médicament en utilisant de la tech en première intention. Donc après, on peut se classer en medtech parce que dans med, il y a médical et que médicament, voilà.
Health, c'est en anglais.
Health, c'est en anglais pour la santé. Donc finalement, effectivement, il y a un peu tout qui marche. Et c'est vrai que quand on a démarré Akemia, on était un peu perdu parce qu'on était entre les grosses catégories. On n'était pas vraiment une biotech classique parce qu'on avait une tech at heart et qui n'est pas forcément le cas de plein de biotech qui se basent plutôt sur de la bio. On n'était pas vraiment de la e-santé où c'est plutôt des applications, etc. Donc on tombait un peu, et on n'était pas de la medtech parce qu'on n'est pas un medical device, donc un petit capteur ou quelque chose comme ça. Et donc on tombait au milieu des cases. Et puis je pense que ce terme de tech bio a dû émerger il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça, et qui correspond exactement à ce qu'on fait. Et je pense que ce terme, il a été créé pour pile le pool de personnes qui font ça en France, mais aussi aux US et UK.
Et vous êtes plusieurs acteurs dans la tech bio en France. Vous retrouvez, comme on a parlé off micro tout à l'heure, de la French Tech ou de ces autres communautés en fait qui défendent, alors là en l'occurrence ça serait tout ce qui est autour de la médecine, mais vous vous retrouvez, enfin vous avez un petit pool.
On a un petit pool, tout à fait, un peu de la même manière que, par exemple, il y a plusieurs startups en France qui font du quantum computing. Donc, on commence à voir émerger, effectivement, des petits pools d'acteurs. Et c'est super parce que ça veut dire aussi que, par exemple, quelqu'un qui finit une thèse en chimie va se dire, oui, je peux faire un postdoc en chimie, mais peut-être que je peux aller travailler en tech bio parce qu'il y a plusieurs sociétés qui sont dans ce space-là. Et donc, c'est une opportunité de carrière intéressante pour moi. Donc, je trouve que c'est vraiment un cercle vertueux d'être plusieurs à adresser le même sujet, alors de manière différente. Mais ça crée vraiment une filière et ça l'a fait rayonner. Ça attire des investissements, ça attire des candidats, ça attire plein de choses.
Vous êtes lancé en 2019. Alors, je vais spoiler personne en disant qu'en mars 2020, on a tous été confinés à cause d'un virus planétaire connu de tous, le coronavirus. Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour vous qui travaillez à la... Enfin, vous venez de vous lancer pour créer justement des molécules et répondre à ces sujets de combattre des maladies. Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour vous cette période ? Est-ce que ça vous a ralenti ? Au contraire, est-ce que ça vous a accéléré ? Est-ce que vous étiez dans votre labo ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, je dirais que ça a eu deux types d'impact. Ouais. Un premier qui est en interne par rapport à l'équipe, parce que du jour au lendemain, nous, on était une petite dizaine, je pense, à l'époque. Et donc, on devait être à Goranov à l'époque, qui est un incubateur public à Paris. Et du jour au lendemain, on se retrouve chez soi. Et donc, c'est mettre en place des nouveaux modes de travail, s'assurer que tout le monde va bien, parce qu'en fait... quand on a une population souvent de gens jeunes, etc., qui sont dans des petits studios à Paris, c'est assez dur psychologiquement à tenir. Donc c'est mettre tout ça en place pour que l'équipe reste motivée. Et en fait, la motivation de l'équipe est en fait assez décuplée parce que, c'est le deuxième point vers lequel j'allais, c'est que la crise du Covid a vraiment mis en avant la recherche pharmaceutique partout dans le monde. Enfin, c'était extraordinaire.
Et l'importance.
Et son importance. En fait, on se retrouvait à parler au déjeuner dominical avec sa grand-mère sur l'ARN messager. Enfin,
oui, parce que c'était plus courant avant.
Voilà. Non, mais c'est devenu complètement incroyable. Et je pense que l'attention que les médias et le grand public ont porté justement à la recherche pharmaceutique a aussi permis de déclencher une sorte de sense of urgency pour toute l'industrie pharmaceutique qui, finalement, a des cycles de développement très longs. Et à un moment donné, en fait, tout le monde a regardé l'industrie pharmaceutique en disant « les gars, on va tous mourir ». Donc en fait, soit on trouve quelque chose en un an et demi, soit ça ne va pas le faire. Et donc, en fait, finalement, ça a prouvé que si on essaie de mettre en place des process pour bypasser certaines choses, si on essaie d'accélérer, si on met plus de financement, finalement, on peut y arriver. Et donc, ça a donné un élan à la fois pour notre équipe en interne et pour notre marché, qui était extraordinaire. Alors, je ne dis pas que c'est génial d'avoir eu Covid, loin de là. Mais en tout cas, l'impact pour Akemia, je dirais qu'il est plutôt positif. Et ça a permis aussi de créer une sorte de use case sur lequel plein de gens sont mis à travailler, c'est-à-dire comment trouver soit des vaccins, soit des petites molécules contre le Covid, etc. Donc, ça a fait plein de à la fois d'opportunités de collaboration, aussi. D'émulation, de recherche académique. Tout le monde s'est focalisé là-dessus.
En tout cas, vous avez participé à votre hauteur et avec ce que vous aviez à l'époque à cette recherche d'une manière ou d'une autre. Alors, bien évidemment, vous n'avez pas travaillé sur the vaccine, mais en tout cas, ça a créé des choses chez vous.
Oui, et puis d'ailleurs, en réalité, on a un petit peu travaillé. Ça a été un projet pendant quelques mois de regarder ce qui se faisait, est-ce que nous, on pouvait faire quelque chose dessus. On a commencé, et puis finalement, après, on est reparti plus vite sur du cancer qui était notre cible à l'époque.
Je le disais en introduction, vous avez fait plusieurs levées de fonds. Je crois que la première, qui est toujours un peu symbolique, parce que c'est la première où on prend son bâton de pèlerin et on part chercher le premier million. Tu es enceinte ? Tu peux nous en parler ?
Oui, donc c'était... en fait, on a commencé à travailler sur Akemia en début 2019 avec Maximilien et on a closé notre première levée de fonds en juillet 2019 avec Elaya, le fonds PSL Innovation Fund d'Elaya. Et effectivement, on a closé le deal. À l'époque, ça se closait en physique. Donc, dans les bureaux des avocats, sur la place de la Concorde, et j'étais enceinte énorme sur la photo de closing. Donc oui, ça prouve aussi que c'est pas forcément un frein. Il se trouve qu'on était deux avec mon associé, donc évidemment, on se soutenait par rapport à ça. Et mon associé a lui-même quatre enfants. Donc, on n'a pas peur des enfants, entre guillemets, chez Akemia. Mais oui, c'est sûr que ça a fait d'un coup l'aventure entrepreneuriale qui accélère et en même temps une vie familiale qui se crée. Ouais.
Mais c'est souvent comme ça.
C'est souvent comme ça. On se dit régulièrement, mais en fait, la vie est quand même mal faite parce que le moment où on a envie que notre carrière explose, on a en même temps une famille qui se crée et donc, en fait, on dort plus.
Ou au contraire, c'est bien fait pour une autre organisation.
Oui, voilà. Du coup, ça fait développer des mécanismes de survie qu'on n'imaginait pas initialement. Mais bon, c'est voilà. On dormira à la retraite.
Exactement. Bien que ce soit très tard, quand même.
Oui, c'est très tard. C'est très tard.
Et donc, je disais, vous avez levé donc 30 millions récemment. Et j'ai une question à ce sujet de notre partenaire, Madinès.
Vous avez un message.
Bonjour Emmanuel, c'est Étienne de Madinès. Avant de te poser la question, je voudrais simplement te dire que j'étais très admiratif du travail que vous faites chez Akemia. Et pour bien comprendre votre développement, pourrais-tu nous préciser comment tu comptes faire pour passer de 50 à 100 collaborateurs d'ici la fin de l'année ? Comment est-ce qu'on passe aussi vite à l'échelle ? Et comment est-ce qu'on dépasse le côté vertigineux ?
Alors, c'est une bonne question, d'autant qu'on ne l'a pas encore fait. Donc, du coup, je n'ai pas encore toutes les réponses.
En tout cas, tu peux projeter.
Je peux projeter, d'autant que alors le nombre n'est pas un objectif en soi pour nous, d'autant que notre but, c'est de faire une R&D qui scale. Donc finalement, si de trouver le plus possible de médicaments avec les bons moyens en face. Je pense que notre challenge de scale, il est le même que dans plein de startups et avec en plus sa composante R&D. C'est-à-dire que chez nous, le scale, ça ne va pas être de multiplier des équipes de sales ou des équipes de développeurs, ça va être vraiment développer des équipes multidisciplinaires qui mélangent des life science et de la tech pour innover tous les jours, pour se dire « Ah bah là, la tech, là, elle marche bien, là, elle marche moins bien, du coup, on développe telle et telle chose, on fait nos hypothèses, on avance. » Donc, il y a vraiment une démarche intellectuelle non-stop à pousser et on se réinvente tous les jours. Et en fait, se réinventer à 10, c'est pas pareil que se réinventer à 50, c'est encore moins pareil que se réinventer à 100, j'imagine. Et donc, c'est typiquement les questions qu'on est en train de se poser là avec Maximilien et avec notre leadership. Comment construire les bonnes strates dans l'équipe, la bonne culture aussi, les bonnes compétences. Il y a toujours des compétences qui manquent à un instant T dans la boîte. Donc, j'ai pas encore la réponse, mais j'aimerais bien l'avoir.
Et est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez en mode projet par rapport à une molécule, c'est-à-dire là tu parlais de travailler sur créer des petits groupes de personnes, est-ce qu'ils sont autant que de travaux sur des recherches pour tel médicament ou tel répondre à tel cancer, c'est comme ça que c'est organisé aujourd'hui?
Alors, c'est un mix de plusieurs choses. Il y a effectivement des petites équipes par projet pour qu'elles aient la vision 360 d'un projet. Et il y a aussi des équipes justement très transverses qui travaillent à notre plateforme technologique pour développer justement des synergies cross-projet et puis améliorer notre tech. Donc, il y a vraiment ces deux aspects qui se tuilent en permanence chez Akemia, en plus du côté multidisciplinaire dont je parlais avant.
Et quand tu parles de culture, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour insuffler la culture Akemia ?
Là, par exemple, on vient de terminer un gros projet en interne sur comment développer la performance chez Akemia. Et donc, on a identifié un certain nombre de dimensions importantes qui est ce qu'on recherche chez l'équipe Akemia. Au-delà des hard skills de chacun en tant que machine learning engineer, que physicien, etc., il y a une façon de faire, une façon de se comporter qu'on aime bien, qu'on trouve efficace et puis qui est la nôtre. Donc on a commencé à faire ça, mais je pense qu'on n'est pas du tout au bout de ce travail de culture. Il y a encore énormément de choses à faire. Puis de toute façon, je pense que la culture, elle évolue aussi au gré du temps. Elle n'est pas forcément la même quand on était 2 que quand on était 10 ou 50, etc.
Et demain 100.
Et demain 100, tout à fait. Non, c'est un travail, pas forcément quotidien, parce qu'on ne se repose pas la question tous les jours, mais c'est un travail de fond, je pense, ultra important.
L'autre jour, je discutais avec une entrepreneur qui était ingénieure, chercheuse en laboratoire, qui est devenue entrepreneur, et elle me disait, j'avais un peu ce sentiment d'imposteur, fallait que je quitte mon labo pour entreprendre, et c'est quand même un autre monde avec d'autres codes, un autre univers. Est-ce que vous avez cette envie, cette vocation de sortir, entre guillemets, d'autres chercheurs de leur labo, comme Maximilien a fait la démarche très personnelle de passer de l'autre côté, comme tu le disais en début de podcast. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous voulez encourager en accompagnant justement cette transition de monde, entre guillemets?
Complètement. D'ailleurs, dans notre équipe, on a, pour la partie tech, c'est principalement des gens qui sortent d'école d'ingénieurs. Et puis pour la partie life science, c'est principalement des gens qui ont commencé leur carrière dans l'académique. Donc avec des thèses, des post-docs, etc., en chimie, en biologie, en physique. Donc oui, c'est quelque chose qu'on encourage fortement. Et je pense que il y a eu une vraie évolution dans la façon dont ce move est perçu dans les dernières années. On en rediscutait encore d'ailleurs hier avec mon associé. Il disait, je pense que si j'avais quitté la recherche il y a 10 ans, je me serais pris des tomates. et là, c'est plus de la curiosité. C'est sans forcément dire que tout le monde a envie de faire pareil, et il faut pas, parce qu'on a besoin de notre recherche académique, au contraire. Mais je pense que c'est super que chaque chercheur, chaque personne qui démarre, qui finit sa thèse, etc., puisse se dire, en fait, en fonction de ce que moi j'ai envie de faire, je peux continuer dans la recherche académique, faire des post-docs, partir à l'étranger, trouver un poste, ou je peux aussi partir dans le privé, que ce soit dans des grands groupes, que ce soit dans des plus petites startups, pour choisir de faire ce que j'ai envie, tout simplement. Et puis je pense que on a aussi ce biais beaucoup en France. J'ai l'impression, enfin en tout cas quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant, par exemple, de trouver des gens qui travaillent en fonds d'investissement et qui ont un PhD de biologie. En France, c'est quand même beaucoup plus rare.
C'est un peu plus siloté, oui.
C'est un peu plus siloté, exactement. Et ouais, on a eu beaucoup de chance avec Maximilien de réussir à casser ces silos au début d'Akemia, et on espère qu'on va pouvoir continuer à le faire, pour ceux qui ont envie de le faire, évidemment.
Tu parlais là justement des États-Unis. Je crois que Boston est un centre très très important en biotech ou tech bio. C'est un projet pour vous d'aller là-bas?
Alors, de manière générale, on va avoir du mal à se dire qu'on a une ambition mondiale dans le domaine de la tech bio, de la biotech, voilà, si on n'a pas un pied à Boston un jour. Et ça, après, ça peut se... Enfin, je dis Boston, en réalité, l'écosystème de New York, San Francisco, etc., sont aussi assez, assez dynamiques. Après, ça peut se faire de plein de façons. Là, on était à une grosse conférence qui s'appelle JP Morgan Healthcare en janvier, ouais, avec Maximilien qui était à SF. Là, on retourne dans 3 semaines à San Diego. Enfin, on est quand même régulièrement aux US. Après, on va voir comment ça se traduit. On a aussi des advisors ou des business angels qui sont déjà là-bas. Donc, probablement qu'à un moment donné, il y aura peut-être un bout d'Akemia là-bas. On ne sait pas encore quand et comment, mais
Nikki.
Probablement. Nikki, mais voilà.
C'est aussi un projet de vie.
C'est un projet de vie et je pense que c'est aussi important d'avoir des gens qui sont aussi implantés là-bas depuis longtemps, qui connaissent les écosystèmes, les réseaux. Enfin, c'est vraiment... Il y a vraiment un sujet de réseau. Boston, c'est un monde dans le monde, avec des enjeux de networking très très forts.
Avant que tu nous quittes peut-être pour Boston, je te propose de t'entendre si tu avais la plus haute fonction de l'État.
projet !
Si tu étais présidente de la République, Emmanuel, quelle serait la première mesure que tu prendrais ?
Je vais essayer de répondre de manière spécifique par rapport à un enjeu, c'est pas forcément le plus important, mais un enjeu sur lequel on se pose régulièrement des questions, qui est sur la place des hommes, des femmes dans le milieu de la tech. Et je pense que quelque chose qui... Le manque de femmes, entre guillemets, en tout cas la sous-représentation des femmes dans la tech... je pense qu'elle peut... De plus en plus, en fait, les gens en parlent dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est super. Bah, par exemple, avec ce podcast ou... voilà. De plus en plus, les gens en parlent aussi, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, qui sont des endroits où il y a beaucoup de personnes qui vont ensuite dans la tech. Mais en réalité, le game, il est déjà plié quand on est en école d'ingénieurs, parce que moi, j'ai fait Supélec, il y a 17% de femmes. Quand j'ai fait Supélec, il y a 12-15 ans, il y avait 17% de femmes, il y en a toujours 17% de femmes aujourd'hui. Donc je pense que le game, il se plie plutôt, en fait, dès l'école. Et donc je pense que c'est vraiment du côté du ministère de l'Éducation qu'il y a des choses à faire. On a vu la réforme du bac il n'y a pas longtemps, qui a fait des allers-retours sur comment pousser ou pas les maths aux étudiants et aux étudiantes. Donc ouais, c'est sensibiliser au plus tôt sur les matières scientifiques, pour qu'il n'y ait pas d'autocensure et pour que bah, finalement les jeunes filles se disent bah, pourquoi pas moi et qu'elles se laissent la possibilité de le faire derrière.
Super réforme. Il y a une super association qui s'appelle Elle Impact qui justement œuvre pour ce sujet et pour encourager les petites filles à choisir des voies scientifiques. Enfin, elle a deux missions. La première, c'est celle que je viens d'énoncer. Et la deuxième, c'est aider les femmes à plus lever dans la tech. Donc, il y a l'avant, comme tu dis, et l'après. Et en effet, c'est un vrai sujet que de sensibiliser les petites filles à ces métiers scientifiques. C'est pas que des métiers de garçons. Tout à l'heure, tu nous as parlé de votre première réussite avec Akemia. Si maintenant, tu nous parlais de ton premier coup de culot.
Là, ça ne me vient pas comme ça. J'aurais pris le parti inverse qui aurait été de dire si je remonte un jour une boîte, je pense que j'aurai encore plus de culot que ce qu'on a eu, avant. Et finalement, se dire bah, c'est quoi ma wishlist au Père Noël ? Et en fait, j'y vais. Puis on verra bien ce qui se passe.
Parce que là, tu t'es sentie, enfin vous êtes sentie, parce que tu parlais à deux voix là, vous êtes sentie pas trop osée demander ?
Ouais, je pense qu'au début, on était peut-être, mais bon, tout est relatif, hein. Si ça se trouve, on était déjà beaucoup plus péchus ou culottés que d'autres et je m'en rends juste pas compte. Et il faut l'être de toute façon pour monter une start-up à un moment donné, hein. Mais ouais, je pense qu'on pourrait l'être encore plus. Après, en vrai, c'est notre métier d'être culotté en soi, parce que quand tu rentres dans une industrie et que ton objectif, et en arrivant que tu dis, bah, en gros, moi j'aimerais diviser les temps par deux et les coûts par trois et faire avancer tout ça, bah, les gens te regardent un peu comme un ovni. Et en fait, finalement, ça fait se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on va y arriver ou pas ? On va bien voir, mais au moins, on se sera posé les bonnes questions sur le chemin. Je pense que c'est vraiment ça qui nous motive au quotidien. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de startups, en réalité, dans la tech, parce que pour beaucoup de startups, le métier, c'est de réinventer quelque chose différemment pour améliorer telle ou telle chose. Bon, bah, nous, c'est améliorer la recherche de médicaments. Et donc, bah, ça vient avec ces challenges. Et oui, il va falloir faire différemment de ce qui a été fait dans le passé si on veut... être beaucoup plus efficace, quoi.
Et la première grosse porte ?
La première grosse porte... C'est très personnel et ça paraît très loin maintenant, mais je pense que c'est typiquement quand on avait fait notre première levée de fonds, on discutait, donc on a un fonds d'investissement qui s'appelle Elaya qui a l'idée le tour, et puis on discutait aussi avec un certain nombre de business angels. Et puis, il y en avait un qui devait mettre une certaine somme. Et puis, deux jours après, qui revient en disant... Et on avait fait tous nos calculs pour que tout rentre bien dans le tour de table. Et puis, deux jours après, il vient en disant, bah, finalement, non. Je sais pas pourquoi, j'ai plus envie. J'ai mis mon argent ailleurs, que sais-je. Et donc, ça a été un drame dans nos têtes. Et en fait, trois jours après, il est revenu en disant, en fait, non, j'ai réfléchi, je vais mettre le double de ce que je voulais mettre avant. Et donc, là, il était là, mais c'est pas possible.
Vous lui avez dit oui. Vous lui avez pas dit, oh, bah non, finalement.
Et du coup, on lui a dit oui. Mais voilà, ça paraît ridicule comme exemple, a posteriori. Mais voilà, c'est fait de petites choses comme ça.
Oui, mais sur le moment, c'est très personnel aussi.
Voilà, exactement.
Et est-ce que tu l'as déjà dit, cette veste Non. Bon, il se reconnaîtra peut-être en écoutant le podcast. Ta première déception?
Ma première déception. Alors, c'est à la fois, je pense que c'est à la fois une déception et l'inverse. C'est quoi l'inverse de la déception? C'est un bonheur, une émulation de tous les instants. C'est que c'est une aventure humaine, en fait. Vraiment, on se rendait pas compte de ça avant de monter notre boîte avec Maximilien. Et donc, bah, parfois, il y a des trucs extraordinaires, il y a des gens qui se révèlent, et on fait du travail formidable ensemble. Et puis, parfois, on est déçu, bah, aussi de soi-même, de pas avoir su gérer certains sujets humains, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Et donc, bah, on apprend, on passe au-dessus, et donc voilà, je pense que la richesse de l'aventure humaine d'une start-up, elle est pleine de différentes émotions. Overall, c'est évidemment positif, mais après, il y a des hauts et des bas aussi.
Ton premier ego trip avec Akemia?
C'est quoi un ego trip?
C'est waouh, c'est génial.
J'imagine peut-être la première levée de fonds, parce que c'était un peu le premier gros achievement où on a réussi à convaincre quelqu'un d'autre que nous-mêmes que ça faisait du sens de se lancer là-dedans. Parce qu'en plus, on a recruté nos premiers employés post cette levée de fonds. Donc ouais, je dirais ça. Puis en plus, on l'a closé avant que j'accouche, et donc ça, c'était cool.
C'est plus sympa que de signer sur la table d'accouchement. C'est sûr. Après, ça laisse des souvenirs. Hein.
Ouais, tout à fait. Mais bon, comme ça, on n'a que des bons souvenirs.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Et là, Emmanuel me regarde en disant, mais qu'est-ce que c'est ?
Interloqué, qu'est-ce qui va se passer ?
Qu'est-ce qui va se passer ? C'est le moment où on va un peu plus parler de toi, ton parcours, comment tu es arrivée cofondatrice et CEO d'Akemia. À quoi, toi, tu rêvais quand tu étais petite fille ?
Oh là Oui, au tout début, il y avait un gros truc sur l'archéologie. Ouais. Ça n'a vraiment aucun rapport. Mais
il y avait de la recherche. C'est peut-être le point commun.
Ouais, il y avait de la recherche, il y avait comprendre, il y avait un peu le côté un peu détective, qui se retrouve d'ailleurs en chimie. C'est assez marrant. En prépa, j'avais fait de la chimie, de la physique, et ça se retrouve dans ces matières-là. Donc oui. Puis la partie scientifique m'a toujours bien plu. J'ai jamais eu l'impression de me sentir freinée par rapport à ça.
Au fait d'être une fille, tu
veux dire ? D'être une fille dans les matières scientifiques. Donc du coup, bah, j'ai avancé sans trop me poser de questions, quoi.
Et le choix, justement, de ces matières scientifiques, t'as fait une école d'ingénieur, tu l'as dit un peu plus haut, il s'est imposé à toi? Tu venais d'une famille plutôt de scientifiques, t'avais un grand frère, une grande sœur qui avait déjà suivi ce chemin, cousin, une cousine. T'étais inspirée ou tu t'es dit non, moi je vais faire des sciences?
Alors, il se trouve que c'est moi la grande sœur, mais que mon petit frère est infirmier, donc finalement on se retrouve en termes de type de métier, entre guillemets, fait de milieu. Non, j'ai une famille de profs à la base. Ouais. Et donc, de profs et aussi de profs en école d'ingénieur. Et donc, c'est vrai qu'il y avait ce côté-là. Et j'ai eu la chance... Enfin, moi, je suis marseillaise à la base. Donc, j'ai eu la chance d'être dans un lycée qui est le lycée tiers, où il y a des prépas qui sont là, built-in, c'est la porte d'à côté. Donc, en fait, on se pose la question de qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc, j'ai eu la chance que finalement, ce soit assez naturel de se poser la question de si t'aimes les maths et la physique... en fait, pourquoi pas faire une prépa et ensuite une école d'ingénieur. Et donc, ok, t'es bonne dans ces matières-là, donc pourquoi pas avancer. Et ça s'est fait assez naturellement.
Le chemin naturel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, entre guillemets, évangélises comme lors de ta prise de parole en tant que présidente de la République et ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'aujourd'hui, tu essaies d'encourager justement à ton échelle des jeunes filles ou des petites filles à suivre ces carrières-là?
Oui, complètement. À chaque fois que j'ai l'occasion, ça arrive souvent qu'il y ait des amis de la famille, etc., qui ont des enfants qui se posent des questions sur leur orientation académique puis professionnelle. Et moi, je suis très contente du parcours que j'ai fait. Donc, très naïvement, si c'était à refaire, je le referais 10 fois. C'est-à-dire mon parcours en prépa scientifique, puis en école d'ingénieur, puis ensuite mes 8 années de conseil en stratégie. Enfin, vraiment, ça a été, je dirais, une suite de non-choix. Parce qu'en gros, t'es plutôt performant dans quelque chose et ça te plaît bien, donc tu continues sans trop te poser de questions. Mais oui, je recommande, et puis ravie d'en parler à ceux qui veulent. Oui.
Mais alors justement, tu dis c'était des non-choix et ça s'est imposé un peu à moi. Tu as fait le choix justement de commencer ta carrière au BCG, donc dans le conseil stratégique. Tu aurais très bien pu, après Supélec, aller dans quelque chose de beaucoup plus scientifique.
Oui, c'est vrai qu'en soi, c'est un choix si on veut, mais le truc, c'est que partir en conseil en stratégie me permettait justement de ne pas me spécialiser. C'est-à-dire que sinon, bah, je serais devenue ingénieur chez EDF, chez Thales, chez plein de grandes boîtes françaises. Et j'avais pas envie, j'avais envie de voir plein de choses, j'avais envie de voyager, j'avais envie de voir des secteurs différents. Enfin, je me suis retrouvée à travailler pour de la grande consommation, bah, pour l'industrie pharmaceutique, pour de la tech aussi. Et donc, ça m'a permis de tester finalement plein de choses.
Et je t'ai entendu parler sur le Bang de Big 2023, où tu dis, après 8 ans au BCG, bon, c'était chouette, j'ai vu plein de choses, comme tu es en train de le dire. Mais je me suis demandé à 80 ans ce que j'allais regretter ou pas. Et en fait, j'avais envie d'entreprendre et finalement de passer de l'autre côté. Donc, tu as sauté le pas. Au-delà du regret que tu avais peur d'avoir, est-ce qu'il y a eu un autre élément déclencheur? Et comment, en fait, de salarié du BCG, on se dit « Ok, je saute dans le grand monde de l'entrepreneuriat ».
Ah ben, l'élément déclencheur, il est très facile. Il s'appelle Maximilien Levesque, mon associé. Donc, oui, on a eu beaucoup de chance. Et en fait, on s'est fait mettre en relation par quelqu'un qui était passé par ENS, passé par BCG, qui s'appelle Olivier Vaury, qui est l'ancien CFO d'Amazon France et ensuite de Mano Mano. Et on a eu cette chance-là. Et en fait, on a bien cliqué avec Maximilien sur deux choses. On s'entend très bien. On est à la fois très similaires sur certaines choses et très différents sur d'autres, ce qui fait qu'on est complémentaires. Et puis, à la fois, on s'est très bien retrouvés sur la vision qu'il avait commencé à construire, finalement, de ce qu'il voulait faire de cette découverte scientifique qu'il avait faite à Normalsup. Et de comment changer la découverte de médicaments. Ça a été ça de très loin, l'élément déclencheur. Ouais.
Et après, tu rentres chez toi, t'en parles à ton mari, t'en parles à tes amis, à ta famille. Et là, tu leur dis, je vais monter une boîte pour accélérer la création de médicaments. Et qu'est-ce qu'ils te disent,
hein? Mes grands-parents comprenaient déjà pas mon métier avant, donc finalement,
oui,
ça n'a pas trop changé. Bien que c'est plus facile de dire, je cherche des médicaments, finalement, que je fais du conseil. Beaucoup de soutien. C'est indispensable pour pouvoir entreprendre, je pense, d'avoir le soutien... de ses amis, de sa famille, mais surtout de son conjoint ou de sa conjointe, parce que au début, c'est pas très rémunérateur, évidemment, parce que on compte pas ses heures, c'est du risque, c'est high reward, mais high risk. Donc, oui, beaucoup de soutien, et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mon mari qui m'a vraiment poussée à monter à Kémia, ouais.
T'as été accompagnée par des structures d'accompagnement où vous êtes lancée comme ça, la fleur au fusil. Alors, vous étiez une spin-off de Normalsup, donc j'imagine que vous aviez peut-être un accompagnement par cette structure, mais il y a eu d'autres personnes qui vous ont guidé, accompagné dans le développement de cette boîte.
Effectivement, la première personne ou organisation qui me serait venue en tête, c'est PSL Valorisation, qui est l'équipe justement qui aide à spin-off des projets de l'école vers des startups.
Beaucoup chaque année. Enfin, ou chaque,
je ne saurais pas donner des chiffres, mais je pense que ça se développe. Et puis justement, ils essaient de faire des programmes pour mettre le pied à l'étrier à des PhD qui commencent à avoir des idées, pour voir en faire une start-up ou pas. Il y a plein de choses qui se développent comme ça, et je trouve qu'ils font un super travail. Et avec nous, ils nous ont vraiment accompagnés de manière la plus sincère et aidante possible. Et okay. Ça, c'était vraiment super. On n'avait pas l'impression que c'était la grosse université qui nous tombe dessus et donc et on se fait broyer. Pas du tout. Donc ça, c'était super. Après, à part ça, en termes d'accompagnement, on a été ravis quelques mois plus tard de rejoindre Agoranoff, qui est un incubateur principalement orienté deep tech, et où donc c'est l'occasion de croiser d'autres entrepreneurs qui font des taxis volants, des robots chirurgicaux à la porte d'à côté. Donc ça, c'est aussi une bonne source d'accompagnement. Je dirais que c'est principalement ça. Et puis après, effectivement, les premiers VC qui ont l'habitude de voir passer plus de boîtes ont des conseils au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Mais oui, je dirais que c'est ça, principalement.
Alors, tu l'as dit, la vie d'entrepreneur, c'est une vie à 1000 à l'heure, où il y a des ups, des downs. comment toi, tu trouves ton énergie et où tu t'inspires ?
Alors déjà, le premier, l'évidence, la première chose, c'est chez mon associé. parce que je ne sais plus qui c'est qui prenait cette image, mais qu'en en fait, il y a les ups et les downs, comme tu disais, donc une sorte de sinusoïde. Et en fait, quand tu es à deux, bah, y a rarement la sinusoïde qui est en même temps en haut et en même temps en bas.
C'est vrai.
Donc en fait, ça permet vraiment de lisser et de se soutenir l'un l'autre quand il y a besoin. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Après, sur des sources d'inspiration, etc., moi, ce que j'aime bien, c'est discuter avec d'autres entrepreneurs, parce que même quand ils sont dans des types de milieux, enfin pas forcément dans la santé, etc., on a souvent des enjeux similaires, que ce soit sur la team, le scale, ce genre de choses. Donc ça, je trouve que ça peut être assez inspirant, ces petits moments de « Ah, mais toi aussi !»
Ça rassure.
Ouais, ça rassure, exactement. Ça, à la fois, ça rassure de se dire « On n'est pas tout seul », et deux, bah, en fait, de trouver des solutions. Donc ça, et puis après, évidemment, l'équipe est une source d'inspiration constante parce que, bah, en fait, on voit des gens qui se révèlent. Il y a des gens, on les a embauchés au début, on ne savait pas trop pourquoi, et en fait, ils sont extraordinaires. Donc ouais, c'est une grande source d'inspiration aussi.
Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes deux petits garçons qui sont encore petits, mais qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre ?
J'aurais envie de leur transmettre que, bah, d'une certaine manière, de garder un peu ce regard d'enfant. C'est-à-dire que c'est un peu ça aussi qu'on fait là chez Akemia, c'est de se dire, mais pourquoi on ne ferait pas différemment, en fait ? Et ça, c'est un peu la façon dont un enfant réagit. Il voit un objet qu'il ne connaît pas, il va lui inventer 1000 utilisations qui n'ont aucun rapport avec l'utilisation pour laquelle le truc était prévu. Et ouais, je pense que ça permet de faire de grandes choses et de se sortir d'impasse. Et je pense que si je fais le parallèle avec la deep tech, je pense que la deep tech peut être source de beaucoup de solutions pour notre avenir, que ce soit, enfin notre avenir avec un grand A, que ce soit pour la santé humaine, que ce soit pour l'écologie, que ce soit, enfin il y a plein de grandes causes sur lesquelles je pense que la deep tech peut vraiment avoir un impact.
Je te propose de passer à nos deux dernières rubriques. La première, la claque. Wow. La claque, c'est ce moment où ça peut être quelque chose de positif aussi, ou de négatif, mais en tout cas quelque chose qui, où tu t'es dit waouh.
En fait, bah, on l'a déjà un peu évoqué, c'est ce côté vraiment aventure humaine. C'est très intense en fait, à la fois entre associés et puis avec son équipe. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est beaucoup plus intense que quand on est dans une grande entreprise où finalement, bah, il y a le cycle de recrutement, il y a le cycle de upper-out dans des boîtes comme le BCG. Mais c'est moins lié à sa propre personne. C'est-à-dire que c'est l'entreprise finalement qui gère tout ça et nous, on est un pion, une pièce dans l'échiquier de l'entreprise. Là, bah, en fait, c'est soi-même. On est en front, en direct, à la fois pour le recrutement, pour convaincre des gens de nous rejoindre, parfois pour se séparer de certaines personnes, pour les faire grandir, pour avoir des discussions à la fois passionnantes et à la fois parfois difficiles. Donc, c'est pas une claque d'un moment précis, mais c'est plus une claque en général de...
Tu t'attendais pas à ça ?
Ouais, enfin, j'avais pas vraiment pensé en me disant ce sera quoi la plus grosse claque que je vais ressentir.
Ouais.
Mais a posteriori... Je dirais que c'est ça le sentiment les sentiments les plus intenses que j'ai ressentis, ils sont des sentiments humains, quoi.
Et à la fois, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que ça peut être à la fois source d'énergie de dingue et à la fois très énergivore.
Ah bah, complètement. Et je pense qu'en fait, une boîte successful ou pas, ça se joue à l'équipe. Oui, ça se joue à l'idée, etc. Mais en vrai... notamment pour des boîtes de la tech où il y a un sujet de levée de fonds, de croissance, etc. En fait, la croissance, elle se fait via l'équipe. Donc, en fait, si le recrutement ou la culture de l'équipe est foirée, t'as beau avoir la meilleure idée du monde, tu la mettras pas en place, quoi. Donc, ouais, c'est clé.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
C'est le moment où tu as le micro pour toi toute seule sur le sujet de ton choix.
Bah, je vais faire écho à quelque chose qu'on a un petit peu dit avant aussi, puis notamment si on a un public d'entrepreneurs, etc., c'est l'importance des associés. Alors, pour moi, l'importance de mon associé, en l'occurrence, parce que il y a quelque chose que j'ai trouvé extrêmement difficile dans l'aventure entrepreneuriale, c'est quand je voyais des solo founders, donc des gens qui ont monté leur boîte seuls, et je souhaite ça à personne. Enfin, autrement dit, pour le dire de manière positive, je suis très admirative des gens qui ont monté leur boîte seule, parce que c'est tellement de claques émotionnelles dont on a parlé tout à l'heure, tellement de, à la fois de haut mais aussi de bas, etc., que moi, porter ça toute seule, je pense que... Alors, de base, je suis assez un animal social, donc c'est pas mon caractère de toute façon. Mais je pense que c'est très dur. Et puis, ça, finalement, ça pourrait devenir très dur pour le conjoint qui, du coup, bah, se prend toutes les vibes derrière, etc. Ma carte blanche, elle est vraiment pour mon associé que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer et qu'on soit toujours à nos côtés l'un l'autre maintenant, 5 ans après. Ouais.
En tout cas, lui, quand il parle de toi, il dit « j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel ». Donc, vous êtes bien alignés.
Oui, complètement, exactement. Ouais.
Pour finir cette émission, si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur que tu admires, tu aurais choisi qui et pourquoi ?
Bah, j'ai pensé, alors, ça se trouve, tu l'as peut-être déjà reçue, Fanny Jolin, qui est la CEO d'Oracle, qui est une boîte dans la tech bio aussi, qui est une spin-off en fait de l'Institut Gustave Roussy, donc qui est un des plus grands hôpitaux européens contre le cancer. Et en fait, avec sa super équipe, là ils en sont au début de l'aventure, mais ils utilisent en fait des tumeurs extraites des patients pour pouvoir développer de meilleurs médicaments. Donc ils sont une autre pièce de la chaîne de valeur par rapport à Akemia. Et Fanny, elle a un peu le même profil que Maximilien, au sens où ça a été une chercheuse académique, et là elle sort, elle est chercheuse entrepreneur, CEO de sa boîte en plus en tant que femme. Et je trouve ça hyper inspirant de se dire que il y a des femmes qui peuvent atteindre un super niveau d'excellence académique et scientifique et prendre ensuite le CEO-ship de leur boîte. Je trouve ça super. Donc ouais, Fanny.
Eh ben merci pour ce coup de projecteur et merci de nous avoir raconté l'histoire d'Akemia à date. Mais je ne doute pas que on pourra avoir l'occasion de raconter l'acte 2 et l'acte 3 de l'aventure d'Akemia. Un grand merci et à bientôt.
Merci à toi.